Entre le socle sur lequel repose tout le système pénal et cette question de... Bon, ça c'est... Alors, l'autre point, c'est juste simplement une question, mais là, qui serait adressée à Durkheim, mais malheureusement, il n'est pas à répondre. Voilà. Si le crime, c'est ce qui est puni, qu'est-ce qu'on fait des crimes de masse qui ne sont pas punis, enfin, qui non seulement ne sont pas punis, mais sont perpétrés par le pouvoir public. Ça commence à rendre dans la question du RMM, c'est quand même ça pose évidemment une autre question que les délinquants juridiques, mais il me semble que c'est quelque chose qui, comment dire, montre qu'il y a quand même une faille dans la définition du RMM.
Oui. Oui, c'est une question. Quoi. Bon, je n'ai pas du tout la réponse, hein, mais.
Il me semble qu'elle permet, par les cas extrêmes, la vie de cristal ou le génocide des idéateurs, qui sont des opérations parfaitement légitimes du point de vue du droit. Mais, bon, donc, avec des crimes. Quoi, comment on intègre ça dans justement
cette définition? Il y a Christophe qui va te
dire. Ah, la réponse, mais tu peux faire la même. Tu peux poser le. Bon. Disons, si tu penses au passage de la vendetta aux formes de violence des familles dans le contrôle de leurs membres au passage par la justice d'État, ça pose la question de pas tant de la peine, mais qui construit la peine, enfin, qui va obtenir une forme de. Monopole de violence légitime pour la commettre. Donc, qui va déposséder les familles du droit de poursuivre, d'assassiner leurs membres, de poursuivre la vendetta? C'est la construction de l'État qui permet ça. Dans le cas des crimes de masse perpétrés par l'État, la question qui se pose, c'est la relation avec les autres États et la construction d'une justice internationale. C'est comme ça, enfin, quelque part, de dire. Qu'est-ce qu'il y a en jeu, c'est au-dessus de l'État, il y a autre chose, et c'est quoi?
Oui. Ben, il y a une question, je l'évoque maladroitement, parce que je ne sais pas trop bien, mais je m'en mets au philosophe, là, je ne sais trop rien. Quoi. Bon, quand j'ai dit, par exemple, voilà, c'est une perspective réaliste, voilà, c'est de dire, ouais, attendez, la délinquance, on peut la qualifier, effectivement, par son caractère illégal, etc. Mais je dis, c'est aussi un truc très très matériel, hein, quand même. C'est toujours les mêmes. Quoi. C'est, de façon générale, Durkheim fait des longues dissertations pour dire que oui, autrefois, le crime, c'était secondaire par rapport à ce que la société tenait pour sacré. Bon, je sais pas où il sort ça, si c'est tellement vérifié par les recherches anthropologiques contemporaines, c'était ce que c'était, bon, à l'époque. Peut-être, quoi. Peut-être, mais en tout cas, il n'y a pas, à ma connaissance, pour ce que j'en ai lu, moi, il n'y a pas de société qui ne dise pas que voilà, le crime, les violences physiques et la prédation, c'est interdit. Parce que, il me semble, moi je l'ai dit timidement, parce que j'hésite à dire ça, mais il me semble, oui, que j'ai dit par parenthèse que je vois mal n'importe quel groupe social qui pourrait fonctionner en disant que c'est permis, vous avez le droit de tuer votre voisin et de piquer ses affaires. Quoi. Je ne crois pas que ce soit réellement possible. Donc là, c'est effectivement un point de vue très substantialiste, très, je ne sais pas comment dire, ras de bitume. Quoi. Mais j'ai du mal à penser le contraire. Voilà, j'ai aussi du mal à penser le contraire. Et j'ai aussi du mal à penser que ces pratiques-là ne sont pas, comment dire, naturellement asocial, constitutivement asocial, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est aussi que j'aimerais qu'on m'explique comment un groupe social pourrait fonctionner à contrario, comment un groupe social pourrait fonctionner. Alors c'est bien, c'est pas terrible comme raisonnement, hein, mais j'ai pas mieux, quoi. Mais c'est une conviction profonde que j'ai par ailleurs.
Donc dans les deux interventions, il y a cette dimension, exposition d'un ensemble de points de vue sur un objet et proposition d'un dépassement au fond de ces points de vue une fois que ces points de vue ont été critiqués. Mais il y a une différence de langage. C'est que dans l'intervention de Vincent, les points de vue sont des points de vue. Dans l'intervention de Gérard, tu parles constamment de construction d'objets. Autrement dit, tous les points de vue sont des constructions d'objets. Alors, c'est pourquoi pas, si on se met d'accord sur cette idée. Mais du coup, l'idée de construction d'objets me semble être diluée. Le concept de construction d'objets, ou etc., me semble être dilué dans ton projet. Et donc, j'aimerais bien savoir si j'ai bien entendu qu'il y avait au fond une sorte de tension dans ces différences de vocabulaire qui sont peut-être pas seulement des différences de vocabulaire.
Alors, ce que j'ai indiqué, moi, effectivement, c'est j'ai usé tour à tour d'une définition, la même que celle de Vincent, qui est une perspective scientifique par rapport à la perspective de sens commun ou bien la perspective du sens commun savant, etc. Mais, effectivement, je l'ai utilisé aussi dans un autre sens, qui est l'idée d'une construction d'État, mais voilà, qui élargit effectivement très fortement la notion en disant que voilà, c'est aussi une. Dans le cas de la délinquance, si tu veux, l'étiquette, le label délinquant, effectivement, convoque immédiatement la notion d'État. C'est-à-dire que pour le coup, tu ne peux pas le garder vraiment comme une toile de fond, un peu lointaine, ce dont parlait Vincent, c'est que tu te le ramasses en pleine figure. En tout cas, une des façons d'aborder la question, c'est au lieu de l'aborder comme une toile de fond interne, ce que moi j'ai fait longtemps d'ailleurs dans mon travail, parce que je m'occupais des délinquants, donc il y avait une toile de fond, il y avait les flics et les juges, mais bon, voilà, je m'intéressais aux délinquants, moi. Donc cette façon-là, utilise effectivement la notion de construction comme, pas dans un sens scientifique, mais dans le sens d'une construction sociale, en général, tu vois, la construction sociale de, quoi, comme on dit aujourd'hui, d'ailleurs, et la construction sociale de tout aujourd'hui, quoi. Bon, ouais, n'importe quoi est pensé comme une construction sociale de, et pour le coup, pas comme une construction scientifique, d'un objet scientifique, quoi, au fond, hein, l'idée de construction est utilisée dans le vocabulaire courant de la sociologie d'aujourd'hui pour indiquer que il s'agit d'un phénomène proprement social et non d'un phénomène naturel. C'est typiquement vrai, je crois, bon, je sais pas, la notion de genre, voilà, le genre est une construction sociale, bon, voilà, la notion de race, la race est une construction sociale, hein, etc. Quoi. C'est-à-dire qu'au fond, cette idée, c'est une extension, effectivement, de la notion de construction. Donc c'est vrai, tu as raison de signaler, Gérard, que je l'ai utilisé le même mot, parce que d'ailleurs, ce n'est pas de ma faute, j'ai utilisé comme tel, je l'ai reprise à mon compte, mais du coup, en introduisant une certaine forme de confusion. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est d'interroger la confusion, quoi. C'est-à-dire, au fond, est-ce que c'est vraiment une confusion, quoi? Est-ce que c'est une confusion illégitime, comme ça peut en avoir l'air, comme ça l'est peut-être, ou est-ce que c'est illégitime au sens, ou est-ce que c'est légitime au sens où ce serait finalement une opération formellement du même genre, quoi? C'est-à-dire par référence à un cadre théorique implicite, explicite, alors explicite dans le cadre de la science, qui sera un cadre scientifique, par rapport à un cadre scientifique, tu construis l'objet d'une certaine façon, scientifiquement, ou bien par rapport à, je ne sais pas comment dire, une vision du monde, explicite ou implicite, plus ou moins formalisée, ou plus ou moins, avec le cas justement compliqué, tu vois, intermédiaire entre le sens commun à un pôle, la science à un autre, et au milieu, les préconstructions savantes, celles dont on a parlé tout l'après-midi, quoi. Bon, c'est moi qui te le dis que c'est des préconstructions savantes, quoi. Je veux dire, ceux qui sont les auteurs de ces préconstructions savantes vont dire que non, c'est tout à fait savant, quoi. Bon, certainement, hein, tu vois, le problème, quoi. Oui, mais t'as raison de mettre le doigt dessus, c'est un vrai, je crois.
Non, mais continuer... C'est vrai que j'avais pas perçu cette différence, mais maintenant que tu le dis, ça me semble assez clair. Tout dépend l'usage qu'on fait de la notion même de construction de l'objet. Bon, voilà, si on en fait un usage fort, il me semble que c'est indissociable qu'on fasse les deux premières parties du métier de sociologue de la rupture. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pertinemment utilisé la notion de construction de l'objet que quand l'opération de rupture a été au préalable posée. Et donc ce qui exclut, a priori, ce qui, d'autres formes de perspectives qui sont des constructions sociales, mais pas des constructions d'objets scientifiques. Alors après, le psychiatre qui étudie la délinquance et donne ou non des circonstances atténuantes ou classifie comme irresponsable, etc., etc., il a bien une construction d'objets aussi, hein, d'une certaine manière. Hein. Dans la mesure où il a un point de vue disciplinaire construit comme tel, à partir duquel il va appréhender, sélectionner des portions de la réalité et les sélectionner, mais en fonction d'une théorie. Bon, donc là, c'est peut-être là que finalement la distinction s'estompe quand même.
Avec cette difficulté supplémentaire que j'avais envie de signaler, d'ailleurs, c'est que quand moi, sociologue de la délinquance, Pierre Rivière, je m'en remets au psychiatre. Hein. Moi, j'ai rien à dire sur Pierre Rivière, je ne peux pas dire un mot de Pierre Rivière. Ouais. Je ne sais pas expliquer Pierre Rivière. Quoi. Voilà. C'est-à-dire que je peux prétendre rendre compte d'une baston entre bande des jeunes de la cité machin et bande de la cité chaude, d'une baston entre les flics et je ne sais pas quoi, du business machin et de son développement, autant qu'on veut. Je peux dire plein de choses là-dessus qui me semblent assez convaincantes et assez solides, hein, à la fois empiriquement et théoriquement assises. Par contre, alors, c'est vrai qu'il y en a des tas de ces faits divers, machin, et qu'on constitue comme des règles, je n'ai rien à en dire, ça m'échappe complètement. Quoi. Je suis totalement incapable de rendre compte sociologiquement de ça, et ravi de concéder le territoire aux psychiatres, hein, ça vraiment, qui se débrouille, quoi, parce que moi je donne ma langue au chat, quoi. Ça, c'est comme ça, c'est vrai. C'est une réalité que je ne peux que constater, de fait. Donc ça pose aussi, tu vois, la question, voilà, préconstruction de l'objet. Oui, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison, je ne sais pas, ça dépend. On va dire.
Oui. Je rebondis là-dessus, je pense à l'Aïr, tu vois, et à sa manière de, au fond, de, je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça, botter en touche, je ne sais pas, enfin, tu vois. C'est-à-dire, au fond, de se donner la part belle en se disant, regardez, moi, je suis Weberien et je suis sur une position, le savant versus le politique, quoi. Donc, voilà. Et donc, je renvoie Manuel Valls dans les cordes, tous ceux qui rappellent l'importance de l'État régalien, par exemple, dans les questions d'ordre, etc. Mais, on voit bien que... à travers ça, c'est une position qu'il a d'une manière un peu globale, parce que par exemple, il travaille sur les rêves aujourd'hui, hein, donc il fait un grand bouquin sur les rêves, hein, il empiète sur un domaine où effectivement le politique n'a pas à intervenir en tant que tel. Et alors, c'est le second point de ta présentation qui m'a posé problème, c'est-à-dire le moment où tu as parlé d'une sorte de concession des droits. Les droits se reculent, au fond, le droit recule en quelque sorte. Le droit fait des concessions à la question de la délinquance en disant, bon, mais à partir de maintenant, ce n'est plus à moi à m'en occuper, mais c'est maintenant à vous, les psychothérapeutes, à vous, les travailleurs sociaux, à vous de prendre en charge le problème de l'éducation de ces jeunes qui sont dans un état de délinquance importante, etc., et qui sont des dangers. Donc, prenez-le en charge. Mais évidemment... Moi, la question que je me suis posée quand tu parlais de ça, c'est de me dire, mais il y a des politiques publiques qui vont se créer là-dessus. Il y a de nouvelles politiques publiques qui vont se créer pour favoriser ces nouvelles professions et ce nouveau champ professionnel, finalement, qui est celui de... Bon. Et donc, l'État va, en tout cas, les politiques publiques vont s'en réinsérer dans le troisième point sous la forme de l'encadrement, en quelque sorte, de ces nouvelles professions qui vont elles-mêmes encadrer la délinquance.
Alors, c'est si vrai que 45, c'est pas si vieux, hein, mais, bon, voilà. Mais on en est à la 42e révision de l'ordonnance de 45, qui consiste en substance à supprimer l'ordonnance de 45. C'est petit à petit, voilà, à reculer le caractère spécifique du dispositif tel qu'il avait été institué en 45, pour finalement rétablir petit à petit le droit commun. On n'y est pas tout à fait, mais enfin, bon,
oui, on est pas loin.
Le chemin est clair, de révision en révision, on va, je crois, vers ça. C'est marche arrière toute.
C'est marche arrière.
Pour le reste, hein, pas toutes les dispositions de 45. on travaille activement à les remettre en cause. Et finalement, voilà, les révolutions, c'est des révolutions conservatrices, comme disait Bourdieu, enfin, au sens où c'est marche arrière. grosso modo, c'est à peu près ça qu'on peut dire.
Oui, c'est ça.
De fait, effectivement, c'est la reprise en main par l'État qui efface, grosso modo, ce qu'il avait fait ou ce qu'il avait dû concéder, finalement, à travers l'ordonnance de 45, je pense. Hein. C'est tout à fait dans ce sens-là. Oui, on retrouve, effectivement, l'action de l'État. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi la question, je trouve, enfin, la question que ça soulève. Voilà. C'est une façon d'aborder cette question-là qui soulève un problème que je trouve intéressant, qui est, au fond, quand des disciplines différentes, des professionnels différents et des dispositifs éventuellement différents se trouvent confrontés à un même objet et proposent leur service de réparateur, qu'est-ce qui se passe quoi. Comment étudier ces deux configurations?
Oui.
Ce qui me semble
intéressant, c'est ça.
C'est une configuration qu'on retrouve assez souvent quoi, ailleurs. Quoi. Sans trop ça, il me semble que c'est intéressant. Donc étudier ce genre de configuration en tant que telle, quoi. En particulier, ça permet de mettre en évidence que si une discipline n'a rien à proposer en termes de solutions pratiques, elle a perdu. Voilà. Ce qui est le cas de la sociologie, typiquement, par rapport à la sociologie. Vous n'avez rien à vendre, bon, bah alors écoutez, circulez, quoi. Bon, vous ne comptez pas, quoi. Vous avez épistémologiquement perdu parce que politiquement, vous êtes incapable. Voilà. Donc, c'est une espèce de loi générale, je crois. Tu vois. Les psychiatres, c'est pareil. Quand même, c'est important, Patrice, par rapport, ça, tu connais mieux quoi, mais il me semble qu'après, après la loi de 38, 1838, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'asile. Alors, les psychiatres sont bien emmerdés parce que justement, les asiles viendront plus tard. Ils récupèrent le problème, mais ils ne savent pas quoi en foutre. C'est comme la loi de 32 sur la délinquance juvénile, à la différence de l'ordonnance de 45, la loi de 32 n'avait rien à proposer.
Ouais,
elle dit je fais un statut particulier, mais on fait quoi? Ben, on verra plus tard. Quoi. Donc, il n'y avait rien. Donc, il ne se passe rien. Ouais,
les premiers asiles, ils ne s'appellent pas asiles, mais ils sont mis en place dès la fin du 18e, c'est 17, mais ils n'ont pas de fonction, ils sont pas de fonction précise.
Ils savent pas.
Et la loi de 38, elle prévoit, c'est explicite, la création d'un asile par département à qui on confie des fonctions de police. Donc c'est la dimensions de fonction de police qui est
On peut s'interroger aussi sur cette notion de réparation. Ça veut dire que, au fond, ces gens-là sont soignables. Enfin, je veux dire, ces jeunes sont soignables. On peut les sortir de là, quoi. Donc, c'est quand même très, très différent de la première phase très interactionniste d'étiquetage. Hein? Parce que, bon, l'étiquetage, c'est un marqueur, quoi, purement et simplement. Là, véritablement, on peut les sortir de là. Donc, il y a une espèce d'optimisme, hein, finalement.
Oui, c'est vrai. Donc,
social à travers ça.
Alors, bizarrement lié à ce qui s'appelle très, très violemment condamné pendant les années 70, quoi, hein, par les Foucauldiens et compagnie, qui vont sortir leurs flingues contre le contrôle social,
c'est ça.
Etc. Et tous ces gens qui voilà, prétendent réparer et qui, sous couleur de réparer, contrôlent, encadrent, sont des espèces de prison à ciel ouvert. Bon, je me sens un peu unilatéral et injuste, pour tout dire. Pour les connaître un peu, bon.
Mais peut-être qu'il a fallu passer précisément par cette espèce de réaction valsiste dont tu parlais tout à l'heure, hein, pour en arriver là. Donc, d'une certaine manière, on pourrait avoir une vision finaliste de la chose, tu vois, téléologique, en disant, ben, finalement, le deuxième moment était important pour aboutir à cette idée qu'au fond, c'est un champ de profession de réparation qui vont sortir les...
Non, mais pour poursuivre sur ce que vous venez de dire, Gérard, c'est presque en abîme, c'est-à-dire... pour sortir de, tiens, les Foucauldiens, ils sont idiots et nains ou pas, enfin, dans les années 70. Si tu penses à Jean-François Gaspard sur l'univers symbolique des travailleurs sociaux, tu peux te dire, les travailleurs sociaux eux-mêmes, comme un espèce de champ, les uns pensent travail social comme une forme de consolation, et consoler et classifier, je pense au bouquin de l'historienne sur la psychiatrie française du 19e siècle. Donc, la consolation... l'entretien, d'autres ont une vision juridique un peu punitive, il faut que vous respectiez la loi, et d'autres, vous avez des droits. Donc on peut dire l'univers même qui les prend en charge n'est pas... Et lui-même, à l'intérieur, est différencié en surveiller ou punir, consoler, etc. etc. Et donc, ce qui complique la construction d'objets.
Oui, finalement. C'est vraiment plus compliqué parce que c'est vrai pour tous, hein. Pour les psy, c'est pas homogène, les sociologues, c'est pas homogène, et les magistrats eux-mêmes, c'est pas homogène. Ils sont pas tous d'accord. Hein. Ils sont capables de nous empailler sévèrement, même. Tout à fait. Il y a des luttes internes, dans ce monde-là, qui sont très vives. Même les juristes sont capables de s'empailler.
J'ai une question pour Vincent, parce que finalement, il nous a parlé une sociologie ou une science politique qui a l'air en grande partie américaine, finalement, au départ.
Oui.
Etc. Donc, c'est vrai que j'aimerais en savoir plus sur les importations, l'histoire des importations différenciées, via la science politique, je pense, principalement au départ, les intérêts des uns et des autres. Tu as parlé de Sciences Po en partie, mais finalement, parce que c'est la même question que je me pose sur la manière dont on regarde la formation des médecins. Les livres cités sont en petit nombre et sont toujours américains. Donc est-ce qu'il faut construire un espèce de champ de la sociologie mondiale qui n'existe pas vraiment, mais pour comprendre l'importation et les intérêts des importateurs, etc.
Oui, alors il faudrait faire l'enquête de façon systématique. Moi, j'en ai une connaissance de lecteur et donc intuitive et empirique, bon, avec quand même un certain nombre d'éléments. Bon, Crozier a joué un rôle important. Indirect mais important, c'est-à-dire que bon, ses premiers travaux et aussi évidemment beaucoup lecteur et système, c'est quand même essentiellement, enfin chacun le sait, hein, bon, une importation d'un certain nombre d'auteurs qui occupent là pour le coup une position particulière dans l'espace de ce qu'on appelle l'analyse des politiques publiques, puisque c'est plutôt ceux qui viennent de la théorie des organisations, quoi, hein, et de la sociologie post-mertonienne des organisations et de l'administration. Donc c'est, et les théories de la rationalité limitée. La rationalité limitée, c'est Simon, Lindblom, etc., etc. Que lui n'importe pas dans une visée de constitution d'une analyse des politiques publiques qui n'existe pas à cette époque, en tout cas en France, mais qui va constituer un pôle extrêmement important, hein, pour le développement de cette sous-discipline, cette sous-discipline ensuite. Ensuite, il y a d'autres, d'autres phases, hein, qui, sont beaucoup plus récentes et que je situerais à la louche plutôt dans les années, dans la seconde moitié, à partir de la seconde moitié des années 80 et dans les années 90, hein, qui là, bon, c'est là que l'histoire sociale des disciplines serait utile, qui à mon avis va de pair avec un phénomène beaucoup plus général, qui est une internationalisation à marche forcée, ou en tout cas assez rapide, de la science politique comme discipline, qui l'était relativement peu avant cette période, quoi. Donc c'est par là que, alors là c'est tout, voilà, les courants qu'on appelle néo-institutionnalistes, hein, par exemple, hein, ou les auteurs comme Peter Hall qui vont développer des analyses sur le rôle des idées dans les choix publics. Bon, alors, et puis, après, c'est aussi, comme là, tu disais, c'est pareil, hein, c'est aussi constitué comme un espace de concurrence, hein, donc les positions ne sont pas du tout homogènes. Et parce que là, je ne parle que du pôle l'analyse des politiques publiques côté sciences politiques et vaguement sociologisée, mais il faudrait aussi intégrer les économistes, hein, avec tout, hein, l'influence là aussi directe ou indirecte, hein, de l'école dite du public choice, qui est en toile de fond, hein, d'un certain nombre de travaux, avec le retour aussi en grâce, si je puis dire, enfin si tant est qu'il y ait eu une disgrâce, mais en tout cas même aujourd'hui, je suis assez frappé de voir que on a des collègues qui, essayent de reprendre l'étendard des théories du choix rationnel, par exemple, hein, donc qui sont pas non plus situés géographiquement au hasard, quoi. Hein, voilà.
Si je puis dire. Et qui sont situés historiquement.
Hein. Et situés historiquement, oui. Mais c'est vrai que ça renvoie aussi plus généralement aux luttes pour la bonne définition d'une discipline. Enfin, on le voit, y compris pour parler boutique au CNU. Quels sont les critères qui sont impliqués? Ils ne citent pas la littérature internationale, c'est franco-français, alors que bon, quand on fait une comparaison vue d'avion de 5 pays, ben forcément, ça rentre dans les clous. Il y a de ça aussi.
C'est très très frappant. J'ai étudié un peu, je n'ai jamais étudié tant que tel, mais enfin, j'ai été là un peu moins présent.
Sébastien Rocher.
C'est après. Le passage clé, c'est Philippe Robert. Philippe Robert, qui est en fait un alors, qui dans l'année sociologique telle qu'elle existe encore, qui est tenue par un vieux bonhomme qui s'appelait Davidovich, qui s'occupait de criminologie et criminalité, qui faisait des stats criminels très très classiques. Ça, c'est Philippe Robert qui va reprendre, je vois comment il a fait, pour reprendre le truc, et son acte fondateur, ça sera de faire vraiment de l'importation. Il va importer la sociologie interactionniste de la déviance, voilà, Becker, Lebert et compagnie, il va apporter ça, voilà, des nouvelles perspectives en sociologie de la déviance, un article assez célèbre pour ceux qui s'occupent de ça, de Philippe Robert et Georges Kellam. Alors c'est intéressant de savoir qui est Philippe Robert, quoi. Philippe Robert, c'est un magistrat, avant qu'on ait écrit la sociologie du droit, oui, c'est un magistrat, c'est important de savoir ça, et qui va bénéficier de l'appui du ministère de la Justice pour fonder son propre laboratoire, qui s'appelle le CESDIC, qui existe encore, et liquider le vieux labo, le nouveau Cresson, qui va obtenir l'obsolescence et donc la disparition, quoi, à terme. Il ne finira pas de crever. Bon. Voilà. Donc aussi, à travers les institutions, donc une nouvelle institution, le CESDIC, qui existe encore, très lié à la pointe moderne progressiste du ministère de la Justice, et ce vieux mot Cresson, très ancien, poussiéreux, lié à l'ordonnance de 45, et la psychosociologie, au paradigme multifactoriel, avec des variables qu'on essaie de rajouter pour que ça marche un peu mieux, bon, voilà, qui va mourir, quoi. Bon, donc, c'est un espèce de triomphe par chaos, complètement, de cette nouvelle sociologie dite de la réaction sociale, donc qui va se préoccuper de l'étiquetage, du marquage, des institutions prises en charge, etc. Et l'autre disparaît. Et ce qui est très amusant, c'est que moi, je l'ai vu réapparaître. Alors, j'étais un de ceux qui ont travaillé un petit peu à sa réapparition, mais à mon avis, je ne suis pas très significatif. Ceux qui sont significatifs, c'est la très nouvelle génération, en l'occurrence, qui est, alors pas du tout, à mon avis, qui ne tombe pas du tout du ciel, elle vient des cités. Alors, c'est la nouvelle génération qui accède à travers la massification de l'université. Ouais. C'est, comme on a dit, la généralisation différenciée. Non, voilà. Mais je crois vraiment. C'est-à-dire que, voilà, si je cite les personnages, hein, c'est Thomas Sauvadet, Marwan Mohamed, Karima Yenfoud, Nasser Tafran, ils ont tous. Voilà, cette singularité des intellectuels de première génération qui viennent des cités en question, qui connaissent d'assez près les délinquants en question, parce que c'est leur pote, quoi. Bon, c'est-à-dire que, tu imagines Philippe Robert enquêter sur les banques, dès qu'il est fait un livre sur les banques, c'est inconcevable, c'est littéralement inconcevable. Ouais, on le voit 30 secondes, on comprend que c'est pas possible, c'est absolument impossible. Il y a même 30 secondes de tête à tête avec ces gens-là, c'est exclu, quoi. Bon, voilà, eux, ils peuvent, quoi. Donc ils vont, d'une certaine façon, pratiquement, faire basculer, en quelque sorte, le paradigme sociologique dans, en sens inverse, vers une espèce d'ethnographie des pratiques délinquantes, comme ils sont plutôt bons, voilà, et, d'une certaine façon, c'est eux qui ont aujourd'hui le crachoir. Quoi. C'est assez frappant, c'est qu'ils ont réussi à... Voilà, ils ne sont pas dominants, hein, le CESDIP, Laurent Mukiely qui a fait la suite, etc., continue de faire le vieux machin, d'ailleurs c'est pas mal ce qu'ils font, hein, ils ne pratiquent pas ce qu'ils font, c'est très utile et c'est très bien. Mais le problème, c'est que pendant tout un temps, finalement, ils ont été occultés totalement tout le reste. Or, là, voilà, il y a cette espèce de changement tout à fait sociologique qui permet de comprendre qu'un sujet inabordable et ce fut plus finalement être abordé. Et le soit de façon tout à fait saisissante, où on apprend tout un tas de choses, on va dire, c'est tout à fait intéressant. C'est lié, je crois, à la vraiment transformation du système scolaire. Sinon, ça ne serait jamais arrivé. C'était très peu probable.
Mais je change de sujet, je m'adresse à Vincent. Et concernant la fin de son propos, concernant l'histoire médiévale, hein, l'État médiéval, bon, moi je veux bien qu'effectivement on parle de rationalisation, mais très vite on va avoir confronté à cette vision des choses un certain nombre d'historiens qui vont accuser cette posture d'anachronique. Donc finalement, il me semble que tu posais tout à fait à la fin le rapport entre politistes et historiens au sujet précisément de l'importation de concepts, appelons-les modernes, si on peut dire, ou même marxistes. Hein. À une époque, ça a été ça. Hein. On a importé sur le XIIIe siècle des points de vue marxistes qui faisaient crier les historiens en disant « on est en plein anachronisme, ça n'a aucun sens de parler de la lutte des Florentins ». Ou des ouvriers florentins avec des concepts de lutte de classe ou de force productive, rapport de production. Voilà. Et donc, je pensais à ça tout à fait à la fin quand tu posais le problème de l'État médiéval et de la question de la rationalisation d'une action publique qui n'a pas encore eu lieu, en quelque sorte.
Oui, j'ai du mal à m'exprimer parce que c'est pas ce que j'ai voulu dire, même si je dois avouer que je suis pas parfaitement au clair sur cette question. C'est-à-dire que je dirais que au moins dans un premier mouvement, mon argument, ce serait de dire bon, on construit sociologiquement un objet, et cette construction sociologique implique de donner des coordonnées spatio-temporelles, pour employer un vocabulaire passeronien, à l'objet qu'on construit sociologiquement. C'est-à-dire qu'on ne va pas construire une espèce de type pur qui serait totalement anhistorique, bon, et qui existerait en tout temps, en tout lieu, et je pense que c'est valable, y compris pour, voilà, hein, même malgré les invariants anthropologiques que tu évoquais. D'où l'idée que j'ai là rapidement esquissée d'essayer de trouver des éléments qui vont spécifier un mode particulier de régulation sociale politiquement légitimée qui va caractériser quelque chose qui est légèrement différent de la domination étatique. Traditionnelle. Voilà. Donc ça, ce serait plutôt mon argument de base. Cela dit, moi, après, bon, même si ce premier mouvement anti-anachronique me semble pertinent, chacun est libre. Et pourquoi pas, à des fins heuristiques, analogiquement, à partir d'un concept construit dans une pour une période, etc. Voilà, penser avec les outils de la sociologie, de l'action publique, l'établissement du canal du centre. Ça pourrait marcher assez bien. Ça. Voilà, parce que là aussi,
On regarde le spartakisme. On pourrait étudier dans cet esprit-là, en disant bon, Spartacus, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est les débuts?
Bon. Oui. Bon, là, peut-être que je m'arrêterai avant.
En arrière, par rapport à l'intervention de Patrice sur l'existence d'un droit nazi, enfin qui comment Durkheim aurait pu répondre à ça? Est-ce que le fait que un pouvoir arbitraire comme le pouvoir nazi établisse des sanctions, des normes, etc., suffit faire exister comme droit ce prétendu droit? Alors, d'un point de vue durkheimien, qu'est-ce qu'on pourrait répondre? Je pense que Durkheim n'aurait pas eu de mal à répondre. D'abord, chez Durkheim, la conscience morale est une conscience collective, ou plutôt l'inverse. Cette conscience collective elle-même est quelque chose d'idéal. Bon, c'est pas une réalité. Donc, il y a un universalisme qui est réel chez Durkheim. Ce qui fait d'ailleurs la difficulté chez Durkheim, c'est qu'on va... On oscille toujours entre les sociétés et la société. La société est une espèce d'entité transcendante qui concerne le genre humain. Mais ça pose toute la question du statut du droit nazi. Enfin, est-ce qu'on peut qualifier de droit quelque chose de cette nature? Alors je ne suis pas spécialiste de ça parce que j'ai horreur de ces gens-là, mais enfin je pense à Carl Schmitt qui a été le théoricien en termes durkheimiens, il n'y a pas de droit dans la mesure où c'est la lutte à mort entre des ennemis. Donc il faut que la race supérieure, entre guillemets, l'emporte. Voilà, et c'est une question de vie et de mort. D'ailleurs, Carl Schmitt reprend les écrits de Hitler sur... c'est une lutte à mort, la lutte ultime, la race aryenne contre les autres. Qu'est-ce qu'il y a comme norme qui ressemble à quelque chose là-dedans? Je ne vois pas trop. Et Durkheim n'aurait pas été embarrassé, je pense, pour répondre à ça. Donc, oui, c'est parce que tu avais posé la question du génocide. Voilà. Génocide n'a pas de statut éthique ou juridique, je crois. Mais c'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent. Voilà.
dans le droit romain, je ne sais pas quoi, tu as le père le droit de tuer ses enfants. Oui, tu veux dire, ce n'est pas du droit.
On ne tue pas comme ça, je pense. Je ne connais pas le droit romain.
Non, c'est pas le droit. Il y a un droit, un imperium sur les enfants, mais c'est pas un droit de tuer.
La définition du crime dans une société donnée. Et on voit qu'elle est vaste, qu'il n'y a pas un invariant.
Oui, ça c'est toute la question.
Mais c'est toute la question.
Il y a des variations.
Oui, il y a des variations. Il y a des variations dans la hiérarchie. Dans la hiérarchie des crimes. Ce que vous évoquez rapidement tout à l'heure, Durkheim dit que voilà, il y a tout un temps où le crime suprême, c'est l'atteinte au sacré. Voilà, de ce que la société définit comme sacré. Mais ce sacré qui pouvait être Dieu va devenir assez vite ou très vite, ou son petit bout de temps, la personne humaine, par exemple. C'est-à-dire vraiment que le quota, c'est interdit. Voilà. Enfin, c'est sacré. Ça fait partie du sacré. Alors, on le dit aussi ailleurs, ça dépend des textes. Il y a plus souvent des variations sacrées. Mais bon, tous les voisins, donc, en général, c'est interdit.
Non, mais pour une société donnée. Tu peux parfaitement exterminer la population de tel endroit parce qu'elle a désobéi à.
Ah, mais il y a la guerre aussi.
Non, mais
là,
non, c'est pas
la guerre. Il y a une dictature, il y a la guerre. Il y a la guerre qui est un truc très particulier. Donc, toutes ces sociétés n'ont jamais cessé de faire la guerre, donc ça veut dire qu'on aura
tout joué. Oui, non, c'est clair que non.
Mais les militaires. La déshumanisation. Si tu veux exterminer, tu es obligé de déshumaniser.
Mais c'est les conditions sociales, pas les conditions.
On peut accepter l'idée de d'invariant au moins relatif.
Voilà. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a quelque chose comme des invariants pour que le vide. Voilà, il nous a. Bon, peut-être je dors, peut-être je dors, mais pas
moi. C'est la condition de possibilité même de vivre ensemble, de vivre avec la société. Par conséquent, on est invariant.
Je vois mal comment un groupe pourrait vivre vraiment s'il n'y a pas ça. Quoi.
Évidemment. Moi, je l'ai compris.
C'est vrai. C'est pour ça que je disais même, ce qui varie selon les sociétés, c'est justement la définition dans le meurtre. Parce que quel type de meurtre est un crime?
Oui, bien sûr. Chez nous aussi, il y a tous les morts qui sont pas délégués de l'administration. Les gens s'intéressent à savoir s'il y a de la préméditation ou pas, des questions comme ça, ils s'intéressent tout à fait à ces choses-là. Donc c'est pas un crime égal à un crime, c'est de toute façon pas bien. Mais ça ne veut pas dire qu'ils les mettent tous exactement dans le même sac. Ils discutent sur ça, bien sûr.
Je pense qu'on sent pas mal.
Non, mais c'est des questions.
Tiens, dans un groupe social donné, une société donnée, parce que dans une société donnée, la règle tu ne tueras pas ton prochain, etc., c'est ça.
Oui, c'est assez général.
C'est assez général, mais il y a des variations. C'est-à-dire que tu as des crimes possibles, permis, tolérés, acceptés.
Le crime d'honneur. C'est pas bien quand même, quoi.
C'est pas bien quand même. Mais du moment où il n'est pas interdit par la loi.
Il n'est pas sévèrement public. Non, c'est la peine.
T'as des sociétés où c'est pas
sévèrement public ailleurs.
T'as des sociétés où c'est pas interdit par la loi.
Mais je pense que. En fait, dans toutes les sociétés, il y a une régulation de ça. Donc, si on y va trop vite, on va dire on a le droit de tuer. Non, mais même dans les sociétés où il y a un grand seul honneur, tu ne peux pas défendre l'honneur n'importe comment, en t'attaquant à n'importe qui. Tu pourrais dire qu'il y a une forme de régulation. Oui, dans certaines sociétés, les familles, les lignées jouent un rôle très important dans cette défense de l'honneur, mais qui veut dire aussi les limites. Et qu'ensuite, une manière, il me semble qu'une question qui se pose, c'est un groupe doit poser un peu en extériorité celui qui veut exterminer. Donc, dans le cas des formes d'extermination, ça suppose toujours une opération préalable qui consiste à dire ils ne sont pas humains ou ils ne sont pas.
Oui, oui, oui. Ça, dans l'extermination, c'est. Bon. Non, pas, mais dans le.
Oui, c'est des sous-hommes, des choses
comme ça. Donc, il y a un travail préalable.
Il faut déjà les avoir étiquetés auparavant pour ensuite les pouvoir reconnaître ce qui s'est passé à l'édifice.
Sur la question du crime d'honneur, c'est ça que la famille. Donc là, on n'est pas dans celui qui est extérieur.
Et d'avoir déclassé en fait. Bon.
Sur ces sombres propos, on va s'interrompre.
Vous pouvez étrangement penser à des discussions qu'on a avec des étudiants. Hein. Là, on n'est qu'au niveau des discussions qu'on peut avoir dans les amphis. Hein. En tout cas, c'est des
étudiants. Les étudiants posent souvent les questions élémentaires et donc fondamentales.